Bonjour à tous. Dernière journée du mois de novembre, déjà 30 novembre. Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Quotidien. Dès quotidien, on est ensemble jusqu'à 11h30. Et pour un deuxième vendredi de suite, c'est Mathieu Tessier qui est là. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Oui, vous allez tellement bien que dans l'émission précédente, vous vous êtes laissé aller, vous avez fait tourner une chanson des Spice Girls.
Ben oui, je
On était pas... très étonnés autour, Jean-Sébastien le premier.
Je me suis étonné moi-même, je dois vous avouer.
Oui.
Mais ça fait plaisir des fois de sortir. Et comme on ratisse très large, point
ah,
de vue musical.
Ah oui, ça c'est Canalem, merveilleux. Hein? Canalem, là, il faudrait faire une publicité là-dessus. La musique est extraordinaire, éclectique. On voyage partout, partout, dans tous les genres.
Et Francine connaissait presque toutes les paroles.
Oui, parce qu'elle nous disait qu'elle avait une fille qui avait vraiment trippé,
c'est
si
vrai?
Vous me permettez l'expression, sur les Spice Girls. Elle disait qu'elle amenait sa gang de filles chez elle. Et puis,
ça paraissait, elle, en tout
il y avait des spectacles des Spice Girls assez régulièrement, donc ça lui est rentré dans la tête, malgré elle. Alors, vous avez fait plaisir à bien du monde, j'en suis convaincue,
bien.
Mathieu. Et d'autant plus qu'elles reviennent,
oui,
les Spice Girls, sauf
tournée,
une, là, celle qui est mariée avec M. Guetta. On l'appelait Poche parce qu'elles ont toutes un sobriquet, oui, un surnom. Et puis c'était Poche, pas dans le sens de pas bonne, là, mais
pas
Poche.
Pas dans le sens québécois, mais...
Non, c'est ça, c'est P-O-S-C-H, okay. Si ma culture Spice Girls, il y en
avait
pas.
Vous êtes plus calé que moi en cette matière.
Alors allez-y avec les éphémérides, ça,
novembre.
Là-dessus, vous êtes spécialiste.
Ben, j'ai une petite feuille devant moi sur laquelle il est écrit que le 30 novembre 1696, Pierre Lemoyne d'Iberville prend Saint-Jean à Terre-Neuve. En 1782, les Américains et les Anglais signent les préliminaires du traité de Paris qui mettra fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. À Glasgow, en Écosse, le premier match international de soccer entre l'Angleterre et l'Écosse se termine avec un score de 0 à 0. C'était en 1872.
Ah oui, ça s'est fini comme ça.
Ben oui.
Eh bien.
1930, première projection du film L'âge d'or de Louis Buñuel et Salvatore Dali. En 1939, avec 500 000 hommes, l'Union soviétique envahit la Finlande, ce qui marque le début de la guerre d'hiver. En 1979, l'album The Wall de Pink Floyd sort au Royaume-Uni. Il deviendra le double album le plus vendu de tous les temps. En 1982, la sortie de l'album de Michael Jackson, Thriller. C'est l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 65 millions d'exemplaires dans le monde.
Le record n'a jamais été battu?
Pas encore, je ne pense
pas.
1987, le CRTC annonce l'octroi d'un permis de 5 ans au réseau RDS, le réseau des sports. C'est donc la première chaîne de télé française entièrement consacrée au sport au Québec. En 1993, une commission d'enquête sur la reproduction, propose d'interdire au Canada le commerce de grossesse ainsi que le clonage des embryons et la vente de tissus fœtaux. Peu importe. 2015.
Mais ça se dit pas fœtaux? Ça se dit?
Oui, c'est fœtaux, okay. En fait.
Je pensais que
j'ai
c'était
fœtaux.
Ouais.
Je pensais au fromage feta, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau a fait un drôle de lien.
Mm-hmm.
Et en 2015, c'est le début de la conférence de Paris. Sur le climat. Et pour ce qui est des naissances du 30 novembre, l'écrivain irlandais Jonathan Swift, donc l'auteur des Voyages de Gulliver, est né en 1667. L'écrivain Mark Twain est né au Missouri en 1835. Winston Churchill, l'homme d'État britannique, est né en 1874. Et Lucy Maud Montgomery, à Clifton, à l'île du Prince-Édouard, est née en 1874. Et pour ce qui est des décès, un des auteurs les plus célèbres du Royaume-Uni, le poète irlandais Oscar Wilde, décédait d'une méningite à l'âge de 46 ans. Lui qui était né
46
en...
ans.
Ouais, hein? Lui qui était né en 1854. Il a résisté à tout, sauf à la tentation.
Celui qui a écrit Portrait de Dorian Gray, entre autres. Et je voulais vous dire, Mathieu et aux auditeurs, que Victoria Beckham... C'est le nom de la Spice Girls qui ne participera pas aux retrouvailles sur scène. Oui, et puis son nom donc de scène, c'est Poche Spice, P-O-S-H, et elle est mariée, non pas avec David Guetta, mais David Beckham.
Oh. Merci Hélène.
En une de la presse, fraude envers les personnes âgées quand la menace est tout près. Un homme de 89 ans allègue avoir été dépouillé de 360 000 $ par le fils d'une amie. Une femme de 93 ans dit avoir été flouée par ses deux femmes de ménage. Les fraudes envers les aînés orchestrées par un proche sont de plus en plus fréquentes, prévient le SPVM. Pose chic, trois looks pour festoyer. Actualité, Île-de-la-Madeleine, un avion militaire en renfort. Et art, cinéma, la course des tucs, des forces aux luges ultra-rapides de Ludivine Redding et Mehdi Boussaïdan prêtent leur voix à Charlie et Zach, les nouveaux de la bande. Alors, la course des tucs, un film d'animation qui prend l'affiche aujourd'hui. Les économies d'une vie partie en fumée. Gustave Sifakis, c'est le nom de la victime qui a été échangé parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable, peut-on lire dans la presse. Il a 89 ans. En janvier dernier, il soutient avoir appris que son loyer n'avait pas été payé depuis 6 mois au CHSLD où il vit. Il devait plus de 7 000 $, affirme-t-il, alors qu'il avait pourtant mandaté quelqu'un pour s'en occuper. Le vieil homme dit avoir ensuite découvert incrédule qu'il ne restait rien des économies qu'il avait amassées pendant toute sa vie. Le fils de son ancienne voisine, Fadi Hamdam, employé de la Banque nationale à qui il faisait confiance pour s'occuper de ses affaires financières, lui aurait subtilisé 360 000 $, allègue M. Sifakis, dans une poursuite civile déposée en cour supérieure en septembre. Fadi Hamdam aurait même fait main basse sur ses rentes de retraite et sa pension de vieillesse. Avec l'aide de sa mère, May Hilal, il aurait créé une soi-disant relation de confiance avec M. Sifakis dans l'intention de se servir des avoirs de ce dernier dans ses propres intérêts et ceux de sa famille, indique la poursuite. Il aurait profité de la position de vulnérabilité du demandeur pour s'enrichir et ou faire l'acquisition d'actifs sans droit à son détriment. Il aurait présenté des documents attestant notamment de l'achat d'un terrain en Équateur, d'un REER et d'autres placements à son propre nom, en plus d'un régime enregistré d'épargne-études au bénéfice de ses enfants. En somme, dès janvier 2017, le défendeur avait dilapidé ou caché dans ses comptes la quasi-entièreté des économies de toute une vie du demandeur, allègue la poursuite. Aucune accusation n'a été déposée par la police dans cette affaire et ces allégations n'ont pas été prouvées en cour. L'avocat de Fadi Hamdam et de sa mère, Maître Paul Sabag, n'a pas voulu commenter l'affaire, se contentant de répondre que les allégations contenues dans la poursuite n'avaient pas été prouvées. Et un autre texte, soutien et vigilance pour les victimes. La population vieillit, les familles sont parfois éclatées, éloignées. Il semble y avoir de plus en plus de personnes âgées, seules et isolées, souligne l'avocate Carmel Marchessault, qui défend plusieurs victimes de fraude. Parfois, quelqu'un leur donne un peu d'attention, d'affection, et elles n'arrivent plus à faire la part des choses. Les prédateurs le savent. Ils gagnent leur confiance petit à petit, et quand la relation est établie, ils passent à l'action. En cas de maltraitance financière ou autre, les personnes âgées ont souvent peur de représailles si elles se plaignent, parce que ces gestes sont souvent posés par leur entourage. Si elles dénoncent, elles craignent d'être laissées à elles-mêmes, renchérit Marc Rochefort, directeur du regroupement provincial des comités des usagers. Parfois, ce sont les enfants qui se servent dans le patrimoine de leurs parents, comme si ça leur appartenait, sous prétexte que ça va probablement leur revenir un jour, dit M. Rochefort. C'est notamment pour aider de telles victimes que Maître Carmel Marchessault a créé en 2016 Juriste à domicile, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de conseiller les personnes vulnérables et de leur donner accès à des services juridiques si nécessaire. Conseil du SPVM aux personnes âgées pour réduire les risques de fraude. Ne divulguez pas vos informations personnelles au personnel de soutien de votre résidence. Ne divulguez pas de renseignements personnels comme vos numéros de compte bancaire et votre numéro d'assurance sociale par courriel ou par messagerie. Déchiquetez vos documents contenant des informations personnelles. Mémorisez votre NIP, ne l'inscrivez jamais sur vos cartes bancaires. Ne divulguez votre NIP à personne, même si quelqu'un fait des achats pour vous. Vous êtes responsable des achats si vous avez donné votre NIP. Conservez vos chéquiers en lieu sûr dans un autre endroit que celui où vous conservez vos pièces d'identité. Autre conseil, vérifiez vos informations bancaires plusieurs fois par mois et vérifiez votre historique de crédit au moins une fois par année. Et on indique que le tiers des 4000 appels à la ligne Aide abus aînés concernaient des cas de maltraitance financière en 2017. Ce service propose de l'écoute et du soutien aux personnes âgées et à leurs proches. On donne deux numéros de téléphone, 514-489-2287 ou 1-888-489-2287. Un avion militaire au secours des Madelinots. Le réseau cellulaire et Internet a été rétabli tard hier soir aux îles de la Madeleine, mais de nombreux résidents étaient toujours sans électricité. L'armée volera au secours des Madelinots qui ont été coupés du monde pendant de longues heures hier à la suite d'une violente tempête. Québec a obtenu l'envoi d'un avion militaire rempli de renforts vers les îles de la Madeleine, alors que des vents violents ont sectionné les deux câbles sous-marins qui permettaient à l'archipel de communiquer avec le continent. Tard hier soir, le maire de la municipalité, Jonathan Lapierre, a affirmé que le réseau cellulaire et Internet avait été rétabli. Des milliers de résidents étaient par contre toujours plongés dans le noir sans électricité. Quatre jours de son envol pour la Station spatiale internationale en direct d'un hôtel du Kazakhstan, où il se trouve en quarantaine, David Saint-Jacques a répondu hier aux questions des médias pour la toute dernière fois avant son départ. Et s'il a admis avoir parfois peur face aux dangers de l'espace, sa plus grande crainte est tout autre, être trop happé par le travail pour réaliser l'aspect extraordinaire de son séjour dans l'espace. Ses bagages sont déjà à bord de la Station spatiale internationale. Il a embrassé ses trois enfants et son épouse pour la dernière fois avant 7 mois. Et depuis le 19 novembre, David Saint-Jacques se trouve en quarantaine dans un hôtel de Baïkonour au Kazakhstan afin d'éviter qu'il ne contracte un virus avant le grand départ prévu pour lundi matin. L'astronaute s'est dit touché de voir à quel point les Russes sont attachés aux nombreux rituels qui entourent le lancement d'une fusée. Il y a quelque chose de presque sacré dans ça. Comment vous vous habillez, ce que vous dites, où vous allez, à quel moment. Les mêmes photos sont prises aux mêmes endroits, raconte-t-il. Il dit avoir été particulièrement ému en plantant un arbre dans l'allée des cosmonautes, tout près de l'hôtel où il se trouve, un rituel accompli par chaque astronaute qui va dans l'espace pour la première fois. Les trois enfants de l'astronaute, ils ont 2, 5 et 7 ans, et son épouse feront le voyage vers Baïkonour pour assister au départ. Mais quarantaine oblige, les adieux se feront à travers une vitre. Y a-t-il eu un événement spécial en chair et en os avant que papa ne parte pour le Kazakhstan? Mes enfants sont tout petits, alors on s'est efforcé de passer les dernières journées les plus normales possibles. C'est plus rassurant pour eux comme ça. L'astronaute ne l'a jamais caché. Il est impossible de nier la peur quand on fait un métier aussi dangereux que celui d'astronaute. Le 11 octobre dernier, le vol raté de la dernière capsule Soyouz habitée est venu rappeler les risques inhérents au fait d'aller dans l'espace. À l'anxiété qu'il dit parfois ressentir, l'astronaute dit répondre par l'entraînement. Les astronautes, on se méfie de la pensée positive, dit-il.
Yeah. aussi la terre avec tes petits mots de verre. Entre l'univers et toi, beaucoup trop de rage me font oublier. Qu'entre toi et moi, ton beau regard bleu m'a tant fait sourire. Et toi, tu éclaircis la terre avec tes petits mots de verre. Mais toi, tu éclaircis la terre avec tes petits mots de verre.
La chanson « Entre toi et moi » de Mara Tremblay et Édouard Tremblay, son fils, qui a d'ailleurs écrit cette chanson.
Ah, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Merci Mathieu. En une du devoir de ce vendredi 30 novembre, Lobby et Sénat et Malbouffe, un projet de loi destiné à protéger la santé des enfants se heurte à la résistance de certains sénateurs. Insulaires coupés du monde, les îles de la Madeleine isolées, le député Joël Arsenault montre du doigt la négligence de Québec. Canada, les crimes haineux envers les musulmans en forte hausse. Culture, la famille parée de la petite vie s'invite à Pointe-à-Calière. Bateau à la dérive, le G20 n'est déjà plus ce qu'il était à l'origine. Et la chronique de José Blanchette, Naître noir et le devenir. La tempête de vent qui a frappé jeudi les îles de la Madeleine ne serait pas la seule responsable du bris des câbles de fibre optique qui assureraient tous les services de télécommunication. Selon le député local, il faut aussi relever la négligence de Québec entre les mains, qui traîne un projet de remplacement de ces câbles. On peut regretter le fait qu'une tempête a entraîné ce bris, mais il n'y a personne qui connaît le dossier qui doit être surpris que ce soit arrivé. Commentait en fin de journée Joël Arsenault, élu péquiste des îles de la Madeleine, l'usure prématurée des câbles est documentée depuis longtemps. Bien avant que des vents allant jusqu'à 130 km causent d'importants dégâts sur l'archipel, le gouvernement Couillard avait reconnu la fragilité et l'importance stratégique de ces câbles. Québec avait ainsi annoncé en décembre 2017 son intention d'appuyer le réseau intégré de communication électronique des îles de la Madeleine qui possède les deux câbles reliant la Gaspésie à l'archipel. On promettait d'assumer le coût de réalisation du projet visant la rénovation ou le remplacement de cette infrastructure sous-marine qui avait subi deux bris depuis sa mise en service en 2005. De nombreux lobbies, dont ceux des géants de l'Internet et de l'industrie alimentaire, s'activent en coulisses à Ottawa depuis plusieurs mois dans l'espoir de bloquer un projet de loi destiné à limiter la publicité sur les boissons sucrées et la malbouffe pour protéger la santé des enfants. Sur les rails depuis 2 ans, le projet de loi S-228, approuvé en troisième lecture par la Chambre des communes et rendu à son ultime étape, traîne devant la Chambre haute où il semble tout à coup se heurter à la résistance de certains sénateurs. Plusieurs organismes de santé craignent maintenant que ce projet lancé par le Sénat en 2016 meure au feuilleton. Cette situation met en furie l'ex-sénatrice conservatrice Nancy Green, aujourd'hui à la retraite et marraine de ce projet destiné à lutter contre l'obésité infantile au Canada. Elle décrit les pressions intenses déployées par certains géants de l'industrie pour faire capoter cette initiative. L'industrie travaille fort pour confondre les gens. Ce projet ne vise qu'une chose, la publicité des boissons et aliments malsains auprès des enfants. Ça n'empêchera personne de les vendre ou de les acheter, seulement d'embêter les enfants. Pourquoi ce délai, a-t-elle déploré, au Devoir? La semaine dernière, le sénateur Terry Mercer a pris la parole au Sénat affirmant que S-228 pourrait nuire à la commandite d'événements sportifs pour jeunes, citant le programme d'aide au hockey junior Timbits soutenu par Tim Hortons. C'est faux. On biaise les infos. Le projet de loi exempte nommément ce type d'événement, insiste Kevin Bilodeau, directeur des relations gouvernementales pour le Québec de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Depuis 1980, le taux d'obésité chez les jeunes a triplé au Canada, ajoute M. Bilodeau. La preuve que ces mesures peuvent aider, c'est que les enfants du Québec sont moins affectés par l'obésité que ceux des autres provinces, puisque les instigateurs du projet de loi S-228 disent s'inspirer des lois du Québec qui prohibent la publicité directe auprès des enfants depuis les années 80. Il faut voir la réalité en face. Le principal tueur au Canada, ce n'est plus seulement le tabac, mais toutes les maladies liées au régime alimentaire, ajoute M. Bilodeau. L'année 2018 devrait figurer au quatrième rang des plus chaudes jamais enregistrées, a alerté jeudi l'ONU dans un rapport publié avant le sommet sur le climat COP24. Dans sa déclaration provisoire sur l'état du climat mondial, l'Organisation météorologique mondiale observe que la température moyenne à la surface du globe pour les 10 premiers mois de l'année était supérieure de quasiment 1 degré Celsius aux valeurs de l'époque pré-industrielle 1850-1900, de sorte que 2018 s'annonce comme la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée. Conséquence, la tendance au réchauffement de la Terre sur le long terme est évidente et se poursuit, a déclaré le secrétaire général de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas. Les cas de rougeole ont bondi de plus de 30 % dans le monde l'an dernier par rapport à 2016, faisant 110 000 morts, a indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur la résurgence de cette maladie extrêmement contagieuse. En raison des lacunes de la couverture vaccinale, des flambées de rougeole sont survenues dans toutes les régions, selon un rapport de l'OMS. Le nombre de cas déclarés de rougeole a atteint un pic en 2017, puisque plusieurs pays ayant connu des flambées sévères et prolongées de cette maladie. J'ai dit puisque, mais ça vient changer le sens. Je reprends la phrase. Le nombre de cas déclarés de rougeole a atteint un pic en 2017. Plusieurs pays ayant connu des flambées sévères et prolongées de cette maladie, a souligné l'organisation dans un communiqué. C'est dans les régions des Amériques, de la Méditerranée orientale et de l'Europe que les hausses du nombre de cas ont été les plus fortes. Les victimes de l'investisseur véreux Bernard Madoff, dont la pyramide financière s'est écroulée en 2008, ont commencé à recevoir de nouveaux remboursements, portant le total des restitutions à près de 2 milliards de dollars, annoncé jeudi le ministère américain de la Justice. Un fonds a entamé la distribution de 695,4 millions qui viennent s'ajouter aux 504 millions restitués en avril et aux 772 millions et demi versés en novembre 2017. Cette somme va être répartie entre 27 000 investisseurs floués dans le monde. Le fonds des victimes de Madoff a reçu au total quelque 65 000 plaintes réparties dans 136 pays et prévoit de restituer au total environ 4 milliards de dollars, soit 10 % des sommes initialement confiées à Bernard Madoff. Et finalement, Air Canada met fin à la liaison entre Hamilton et Montréal en raison de la faiblesse des ventes auprès des voyageurs d'affaires. Environ un mois après avoir bonifié son offre de vol entre les deux villes, le transporteur aérien a confirmé jeudi sa décision par l'entremise d'une publicité dans le quotidien ontarien Hamilton Spectator. Air Canada cessera d'offrir cette liaison après le 30 mars. Air Canada Jazz avait effectué un retour à Hamilton en mai 2016 après une absence de 8 ans. Le transporteur régional ciblait les gens d'affaires qui souhaitaient effectuer un aller-retour ainsi que les voyageurs qui voulaient effectuer une escale à Montréal avant de se diriger vers une autre destination. Restez avec nous, la suite de l'émission avec, entre autres, la revue de presse du Journal de Montréal.
C'est un bijou, c'est une croix. Je te le dis sans faire de style. Tu sais, la vie, c'est difficile. J'ai mis du temps à comprendre ça. Ça me rentre dedans depuis que t'es là. Mais nous voilà dans la lumière. Bonjour mon chat, ma petite guerrière. On est puni, on est brisé d'avoir trop de candeur. Soyons prudents, soyons rusés et forts comme des boxeurs. Nous chatouillerons les démons. Nous verrons dans le noir. Nous ferons danser les dragons. Mais il faudra vouloir. Oh non, les hommes, c'est pas Winnie l'ourson. Ils ont de bien drôles de façons. T'en parleras aux éléphants. Les hommes, c'est pas Bambi le fin. Veille à ton âme, garde ton cœur. La petite flamme à l'intérieur. Tu es fragile et tu es fière. Reste indocile, ma petite guerrière. Faudra bien un de ces quatre faire un tour dans la rue. Il faudra t'apprendre à te battre mieux que j'ai jamais su. Je te laisse ma plus haute tour. Des chevaux de la braise. Si tu veux, prends mon vieux tambour et ma flûte irlandaise. Oh, fou, la vie c'est quoi? C'est un bijou, c'est une croix. Je te le dis sans faire. la vie, c'est difficile. J'ai mis du temps à comprendre ça. Ça me rentre dedans depuis que t'es là. Mais nous voilà dans la lumière. Bonjour mon chat, ma petite guerrière. Tu avances avec l'herbe folle sur la plaine endormie. Oh mon oiseau, prends ton envol. Je viendrai bien aussi. Étrange terre où les moutons n'ont plus de mer, où l'Antarctique perd sa tunique et les manchots se noient dans l'eau. Mais quand je te vois dans le couloir, il me revient un drôle d'espoir, car nous sommes là dans la lumière. Bonjour mon chat, ma petite guerrière. La vie c'est fou, la vie c'est quoi? C'est un bijou, c'est une croix. Je te le dis sans faire de style. Tu sais la vie, c'est difficile. J'ai mis du temps à comprendre ça. Ça me rentre dedans depuis que t'es là. Mais nous voilà dans la lumière. Bonjour mon chat, ma petite guerrière.
Ma petite guerrière, chanson que Pierre Flynn a écrite pour sa fille.
Très belle chanson. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Pierre Flynn. Quelle voix et quel auteur-compositeur. Parlant de voix et de bon auteur et de bon compositeur, Robert Charlebois, vous connaissez? Charlebois à grand déploiement pour ses 75 ans. Robert Charlebois s'offre un grand spectacle rétro-futuriste dans lequel il s'associe à deux entreprises montréalaises qui créeront pour lui un orchestre pour les yeux. Robert, en Charlebois-scope, sera présenté du 6 au 8 juin à la salle Wilfrid Pelletier, mais aussi à Québec, à Sherbrooke, à Ottawa et en France. Je suis Montréalais et je trouvais stupide de ne pas m'associer à tout ce talent visuel de chez nous, dit Robert Charlebois. Deux entreprises montréalaises de haut niveau participent à ce projet qui veut rivaliser avec les plus grandes productions internationales. 4U2C, j'imagine que c'est 4U2C, une entité du Cirque du Soleil pour le dispositif scénique, et Champagne Club Sandwich pour l'environnement visuel. Des heures d'archives, un écran de 50 pieds de large, les moyens déployés seront grands, mais Charlebois ne veut surtout pas d'un show de boucan. D'autres l'ont fait, vous l'avez vu souvent. Vous avez vu Rammstein, on leur laisse ça.
Conception. Et avait besoin d'affection.
Ça va certainement faire partie de son spectacle Conception, Robert Charlebois. Et de Charlebois, passons à Michel Robida. Les robes de Céline exposées, des tenues de l'artiste, font partie d'une exposition du designer Michel Robida, intitulé « Processus, passé, présent, avenir ». Cette exposition comprend le célèbre ensemble blanc veston-robe à crinoline dans lequel la chanteuse a remporté le concours Eurovision en 1988. Pour cet événement important qui pouvait propulser sa protégée à l'étranger, René Angélil souhaitait un look moderne mais accessible et bon chic, bon genre, évoque Michel Robida en entrevue au journal. Robida a commencé à travailler avec Céline Dion en 1987, une année charnière pour cette dernière, puisque, en plus de marquer son retour sur 10 avec Incognito, elle marquait son passage de petite fille à jeune femme adulte et ses vêtements devaient refléter cette évolution, explique le designer. Styliste aussi pour Julie Snyder au Point J, il en a fait des choses, Michel Robida. L'exposition « Processus passé, présent, avenir » se tient au Centre d'art Diane Dufresne à partir du 5 décembre, jusqu'au 17 février. Des costumes de scène de Ginette Renaud, Diane Dufresne, Michel Richard seront aussi exhibés. Et Michel Robida ignorait que Céline Dion avait conservé ses robes de l'ère incognito. Quand j'ai appris qu'elle me prêtait les tenues pour l'exposition, j'ai fait « Oh my God », relate le designer. Et quand j'ai reçu les paquets, j'ai été très émue parce qu'elle conserve ses costumes dans des boîtes muséales. C'est comme si j'avais reçu des costumes du musée McCord. C'est cette même qualité de conservation. Chef-d'œuvre à Minable, la Côte fête son demi-siècle. C'est en pleine Révolution tranquille qu'est née l'échelle d'appréciation artistique qui deviendra la référence des Québécois au cinéma. Née sous la houlette de l'abbé Robert-Claude Bérubé, l'échelle de Médiafilm fête donc ces jours-ci son demi-siècle. Au nombre de 7, en clin d'œil au 7e art qu'il qualifie, ses cotes vont de 1 pour chef-d'œuvre à 7 pour Minable. Tout reflète la vie concertée de cette institution indépendante qui compte au sein de son équipe interne et externe une douzaine de spécialistes du cinéma et prend aussi en délibéré les avis exprimés par des médias d'ici et d'ailleurs. Au nombre de 153 à ce jour, les chefs-d'œuvre ont tous fait l'objet de délibérations ultérieures, la cote 1 ne pouvant être attribuée qu'après une période de mûrissement. À cet effet, Mediafilm procédera en décembre à la réévaluation des films Côté 2 pour Remarquables, datant de 1998, afin de déterminer si certains d'entre eux méritent de passer à la cote 1. Carrière inattendue, meilleur vendeur au Québec, les prêtres entreprennent une tournée provinciale. Ils sont les meilleurs vendeurs d'albums au Québec, ont remporté un Félix et ils amorcent une tournée du Québec. Non, il ne s'agit pas de rockstars, mais bien des 8 prêtres de Québec dont la carrière a pris un détour inattendu grâce à Mario Pelchat. Le Journal de Montréal est allé à la rencontre des prêtres vedettes mercredi à Longueuil, alors qu'ils répétaient en vue d'une tournée de 9 dates à travers le Québec. Parmi eux, 3 jeunes immigrés, dont certains n'ont même pas encore 30 ans. Le Polonais Thomas Manzak, un séminariste de 27 ans, ainsi que les prêtres nouvellement ordonnés, Alex Cordoni, 29 ans, et Matteo Marinucci, 32 ans, tous deux Italiens, sont débarqués à Québec il y a plusieurs années déjà, dans le but d'y avoir une paroisse. Ils sont particulièrement heureux de faire partie du projet. Le succès des prêtres est impressionnant. Ils ont vendu 110 000 exemplaires de leurs 2 premiers albums, remportant sans surprise le Félix de la catégorie meilleur vendeur au plus récent gala de la disque. Le phénomène se poursuit avec le 3e opus, « Quand les hommes vivront d'amour », lancé début novembre. On vend entre 2 000 et 3 000 albums par semaine depuis la sortie, confirme Mario Pelchat. « Je ne suis pas certain qu'on prend encore la pleine mesure de ce qu'on vit », lance Monseigneur Louis Corriveau. Au départ, le premier album des prêtres avec Mario Pelchat, « Agnus Dei », servait à amasser des fonds pour sauver un orgue Casavant, celui de l'église Saint-François d'Assise à Limoilou de la démolition. Les redevances servent toujours pour le déménagement vers la cathédrale de Bécomo, là où l'instrument sera préservé. La restauration est complétée à moitié. Pour les redevances du plus récent album, chacun des prêtres a choisi une œuvre caritative qui recevra l'argent amassé. Le choix des œuvres devrait être annoncé plus tard. Les prêtres seront en spectacle à Québec, Brossard, Gatineau, Sherbrooke, Saint-Eustache, L'Assomption et j'en passe. Et ils amorcent la tournée ce soir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et outre Mario Pelcha, ils chanteront en compagnie de Cindy Daniel, Marie-Josée Laure, Margot, Raphaël Dolan-Bachan, Christian-Marc Gendron et Sophia-Rose Boulanger. Nouveau directeur musical du prestigieux orchestre du Metropolitan Opera de New York, le Met, Yannick Nézet-Séguin ne perd pas de temps et laisse parler ses idées. Le chef québécois de 43 ans a récemment marqué le début de son règne lors de répétitions d'une énième version de la Traviata de Verdi, premier opéra qui sera joué sous sa gouverne. Non seulement a-t-il convaincu le metteur en scène de l'œuvre de modifier un passage important du spectacle, mais il a également permis le retour du second entracte pour cette création, apprend-on du quotidien The New York Times. C'est dans le but de permettre aux chanteurs de reposer leur voix entre les deuxième et troisième parties, dit-il. Le long métrage Gabriel de Louise Archambault sera présenté le 6 décembre à 19h30 au Ciné-Club Dames des Vues, présenté par les réalisatrices équitables. Sorti en 2013, le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit avec le syndrome de Williams, tente de prouver son autonomie tout en découvrant l'amour auprès de Martin, un chanteur de sa chorale. La réalisatrice sera présente et fera partager trois histoires vraies avant la projection qui a lieu au 5154 rue Saint-Hubert. Et pour terminer, l'organisme Éléphant, qui se consacre à la restauration de films québécois, célèbre dimanche ses 10 ans d'existence avec un concert de musique de films québécois au cinéma Impérial. Lou Babin, Louise Forestier, Dominique Lorange, Daniel Ouimet, Marie-Hélène Thibert et Lise Touin interpréteront diverses chansons, dont « L'amour a pris son temps » de La Guerre des Tucs. Les interprètes seront accompagnés de musiciens et d'un chœur. Le tout commence à 14h et l'entrée est libre.
Hey Lou, viens ici 2 secondes. Qu'est-ce que t'as, ma blonde? Sais-tu ton cœur ou ta tête qui te fait de l'ombre? Hey Lou, sais ce qui serait cool et qui serait temps? C'est que pour une coupe de jours, toi et puis moi, on sac notre camp. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça? Si j'insistais pour nous amener la bonne? J'ai pas de luxe à t'offrir, mais je t'aime à mourir. Toi, y a des soirs, tu me fais peur. J'aime pas ça quand tu pleures. Hey Lou, t'es tellement, tellement belle, jour et nuit, comme une rivière dans son lit. Le monde, juste pour se retrouver, toi et moi. Se prendre une petite bière, marcher dans le bois, puis faire des bébés. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça? Si j'insistais pour nous amener là-bas, Lou. J'ai pas de luxe à t'offrir, mais je t'aime à mourir. Toi, y a des soirs, tu me fais peur. J'aime pas ça quand tu pleures.
J'aime pas ça quand tu pleures, une chanson de Martin Léon.
Et on apprend en exclusivité dans Le Soleil, sous la plume de Richard Terrien, que Info, sexe et mensonges, qui devait reprendre l'antenne au printemps sur Ici Radio-Canada Télé, n'aura finalement pas de suite, apprit donc Le Soleil. Le diffuseur a informé Marc Labrèche que son émission d'éditorial satirique ne serait pas de retour comme prévu après seulement 2 saisons. Radio-Canada avait été pris un peu de court au printemps en apprenant que Labrèche avait signé un contrat à Télé-Québec pour la nouvelle émission cette année-là. Étant donné qu'Info, sexe et mensonges, produite par chez Fairplay, devait revenir pour 17 nouvelles émissions dès l'automne sur Ici RTV. Dans les circonstances, on a alors projeté de ramener ISM, Info, sexe et mensonges, pour une saison réduite de 10 semaines, mais sur Ici Radio-Canada Télé, éventualité qui a été abandonnée. Patrimoine immatériel de l'humanité. On en parle beaucoup de patrimoine de toutes les façons, matériel, immatériel, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Place à de nouveaux savoir-faire. La liste représentative, dis-je bien, du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, établie par l'UNESCO, compte déjà quelques 400 traditions culturelles qui mettent en lumière des savoir-faire portés par des communautés, allant de la pizza napolitaine au zaouli, musique et danse des communautés Gouro de Côte d'Ivoire. Hier, une 20aine de nouveaux éléments ont été ajoutés à cette liste. En voici quelques-uns. Les crèches de Cracovie. Depuis des générations, un concours de la plus belle crèche de Noël à Cracovie attire des centaines d'artistes de tous les âges, une tradition en temps de l'Avent, devenue l'un des grands symboles de l'ancienne capitale royale de Pologne. Figurant désormais au patrimoine culturel de l'humanité, ces crèches, faites entièrement à la main en bois, en carton ou en papier, d'aluminium, de toutes les couleurs, sont de véritables œuvres d'art qui exigent un travail de moine et une précision d'ingénieur. Suisse et Autriche, la gestion du danger d'avalanche. La gestion du danger d'avalanche a façonné l'identité des populations alpines, a souligné l'UNESCO. Même si des outils modernes viennent compléter les savoirs traditionnels, cette gestion ancestrale est enracinée dans la culture du quotidien des communautés et souligne l'importance de la solidarité en situation de crise, poursuit l'organisation. L'évaluation des crises, des risques d'avalanche requiert une connaissance approfondie de la nature, en particulier du terrain, de la neige, des conditions météorologiques et des avalanches passées. Si ces connaissances étaient auparavant transmises oralement, elles sont désormais le fruit d'un processus dynamique qui associe le savoir empirique et l'expérience pratique. Les transferts de connaissances se font de la science vers la pratique et du terrain vers la recherche, a souligné l'UNESCO. Le hurling est une sorte de hockey sur gazon d'origine irlandaise se jouant avec une crosse. Comme le camogie, une forme de hurling pratiquée par les femmes, ce jeu de terrain oppose deux équipes et est vieux de plus de 2000 ans et est fortement présent dans la mythologie irlandaise, explique l'UNESCO. Alors, d'autres faits à souligner dans cette liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le parfum de grâce, les savoir-faire liés au parfum de grâce dans la région des Alpes-Maritimes recouvrent trois aspects différents, détaille l'UNESCO. La culture de la plante à parfum, la connaissance des matières premières et leur transformation, ainsi que l'art de composer le parfum. La ville de Grasse, berceau de la parfumerie mondiale, comptait sur cette inscription pour mieux protéger ses champs de tubéreuses ou de jasmin. Depuis 70 ans, ils sont mis à mal par la pression foncière, la montée des produits synthétiques et la concurrence d'autres centres producteurs. Le label UNESCO devrait favoriser la possibilité de bloquer des terrains au service des jeunes agriculteurs et encourager des sociétés de parfumerie à signer des contrats à long terme pour garantir aux horticulteurs de pouvoir vivre de leur récolte. Le reggae, issu d'un milieu culturel qui abritait des groupes marginalisés, le reggae de Jamaïque, popularisé dans le monde entier par son icône Bob Marley, marie plusieurs influences musicales, d'anciens genres musicaux jamaïcains, des rythmes originaires des Caraïbes, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. L'UNESCO a souligné la contribution de cette musique jamaïcaine à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité, et sa dimension à la fois cérébrale, sociopolitique, sensuelle et spirituelle. Si à ses débuts, le reggae était la voix des communautés marginalisées, il est désormais joué et adopté par une importante partie de la population, tout groupe ethnique et religieux confondu, a ajouté l'UNESCO. En tout, une bonne vingtaine d'éléments ont enrichi hier la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En vrac, l'UNESCO a également reconnu le Mwinogé. Est-ce que vous connaissez ça?
Non, j'allais dire.
Mathieu, c'est une danse joyeuse du Malawi. Alors là où Madonna a adopté quelques enfants. Les Reo-Shin, ce sont des visites rituelles de divinités masquées japonaises. La Samer, ce sont des danses et des chants jordaniens. Le Khon, K-H-O-N, théâtre masqué et dansé de Thaïlande. Et la lutte Shida-Oba, art martial de Géorgie qui associe des éléments de lutte, de musique et de danse, tous et toutes certifiés UNESCO. Quelques suggestions avant de se laisser. Noël dans le parc à partir de demain jusqu'au 25 décembre. Noël dans le parc est de retour dans trois lieux de la ville, à la place Émilie-Gamelin, au parc des Compagnons de Saint-Laurent et au parc La Haye. On pourra assister gratuitement à plus de 100 spectacles et animations. Demain, on entendra Damien Robitaille, la famille Ouellette, Bernard Adamus. Dimanche, ce sera au tour de Maria Canelloni, des Fées de Noël, et de Chante ta voix et de plusieurs autres. Pour soutenir ce festival, on peut acheter un sapin dans un des parcs ou même en ligne et le faire livrer chez soi. La porte-parole est Mara Tremblay. Aussi, jusqu'à dimanche, le meilleur du design montréalais s'expose à la Société des arts technologiques. Toute la fin de semaine, pour des emplettes de Noël originales, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Et autre suggestion, au Musée McCord, qui présente plusieurs expositions en cette période, l'installation « Ombres sans frontières », l'exposition « Porter son identité, la collection des premiers peuples », ainsi que Marisa Portolise dans le studio avec Notman. On peut aussi revivre la féerie des vitrines d'Ogilvy, désormais installée au musée McCord. Voilà, c'est tout pour cette émission du 30 novembre, la dernière du mois de novembre. On se retrouve en décembre. Demain, c'est le 1er déjà. Alors, le décompte de Noël va officiellement commencer dès demain. On aura des chansons de Noël pour vous. Ici, Hélène Denis qui vous souhaite un beau week-end. Merci, Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. À lundi.
Je ne tarirai pas toujours d'éloge à l'égard de l'indifférence. Je ne tairai pas non plus la parole sous le poids des mots, puisque tu t'en balances sous le poids des mots au gré du silence. Paradigme 1, et les vautours tournent au-dessus du festin. Et toi qui attends que l'on déroule un tapis rouge et vivra bien demain, celui qui croit en son destin, tu penses, ou vivra mieux demain, celui qui se prend en main. Je t'aiderai bien un autre jour si tu le veux bien. Je t'aiderai bien après ta mort, on verra bien. En attendant, fais comme les autres, vote pour moi, vote pour moi. Na, 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 na. Oh. Puisque tu t'en balances sous le poids des mots au gré du silence. Sous le poids des mots, puisque tu t'en balances sous le poids des mots au gré du silence.
Il s'appelle Ralph, un Français établi à Montréal, et la chanson s'appelait « Au gré du silence ». C'est un artiste que je viens de connaître, alors je voulais vous le partager.
Ben oui, merci pour cette découverte, ce gentil partage, Mathieu. En une du Journal de Montréal, une Franco comme on les aime. Franco-ontarienne Amanda Simard a claqué la porte du Parti progressiste conservateur de Doug Ford hier, et José Legault écrit une chronique intitulée « Chapeau à la députée ». Tempête aux îles de la Madeleine, l'armée en renfort. Mariage royal d'un Hells en plein cœur du centre-ville. Les motards ne se cachent même plus. On voit les futurs mariés Annie Arbic et Martin Robert. Et à l'intérieur, on dit que, signe de l'importance de Martin Robert et Annie Arbic dans le monde interlope, plus de 270 convives liés aux motards à la mafia ou à la pègre irlandaise assisteront à la cérémonie dans une somptueuse salle de réception de la rue Peel au centre-ville. Ça se passe demain et il y a des agents de renseignement, des corps policiers majeurs comme la GRC, la SQ et le SPVM qui seront aussi sur place. La chronique de José Legault, « Fais ce que doit ». Il faut savoir quitter la table, dit la chanson. En politique, les démissions sur une question de principe sont toutefois rarissimes. Quitter sa famille partisane est un geste douloureux. Il arrive cependant des tournants de vie où un élu doit se dire en son âme et conscience « ça passe ou ça casse ». Il en va ainsi pour la députée ontarienne Amanda Simard. Après avoir dénoncé les politiques francophobes de son parti, elle annonçait hier son départ du caucus conservateur du premier ministre Doug Ford. Elle l'a fait au nom d'un principe non négociable pour elle, le respect des droits de la minorité franco-ontarienne. En jetant aux orties le projet d'une première université de langue française, Doug Ford a fait déborder un vase déjà trop plein de désillusions. La réalité est sans pitié. Fragile, malgré ses combats épiques pour préserver sa langue, la minorité franco-ontarienne continue de subir les dommages de l'assimilation à l'anglais. Selon les analyses du mathématicien Charles Castonguay, le recensement de 2016 montrerait ceci. Sur 13,3 millions d'Ontariens, 527 598 ont le français comme langue maternelle, 4 %. Mais attention, écrit José Legault, à peine 309 515 d'entre eux ont encore le français comme langue d'usage à la maison. Cela témoigne d'un taux d'assimilation élevé. Nous sommes donc très loin des 600 000 franco-ontariens souvent mentionnés dans les médias québécois. La démission de Mme Simard du caucus conservateur sonne l'alarme. Sous Doug Ford, la francophobie s'affiche sans complexe. Sauf pour de rares exceptions, l'indifférence au Canada anglais de sa classe politique et de ses médias fait le reste. Mme Simard a d'autant plus de ressorts qu'elle aurait très bien pu se cacher derrière la ligne de parti et rentrer docilement dans le rang. Elle aurait pu faire comme Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, dont le refuge est d'obéir à la solidarité ministérielle. Contrairement à Mme Simard, Mme Mulroney a choisi le mauvais côté de l'histoire, écrit ici avec un H majuscule. La semaine dernière, j'avançais qu'en se faisant la messagère des politiques anti-francophones de Ford, l'ex-candidate à la chefferie conservatrice hypothèque son avenir politique. Cela dit, la crise actuelle transcende les ambitions des uns et des autres. On parle ici d'un enjeu fondamental. La protection des droits des francophones minoritaires. Or, sans les institutions nécessaires pour les porter, ces mêmes droits, aussi enchâssés soient-ils dans vos belles chartes des droits, ne sont qu'une coquille vide. Le contenant y est, mais pas le contenu. Aux antipodes, les droits de la minorité anglo-québécoise s'incarnent concrètement dans un éventail complet d'institutions payées à même les fonds publics. Dans un contexte aussi difficile, chapeau à la députée Amanda Simard. Elle rejoint la courte liste des élus capables de quitter leur parti ou leur gouvernement au nom d'une conviction de toute évidence inébranlable. Surtout qu'elle sache ceci. Même si son geste s'avérait impuissant à ébranler les piliers du temple pourri qu'elle a eu la force de plaquer, son courage de lanceur d'alerte politique mérite le respect. Le pire de la saison de la grippe pourrait sévir pendant les fêtes. Arrivée depuis deux semaines au Québec, la saison de la grippe pourrait atteindre son pic durant le temps des fêtes, un scénario peu enviable qui risque de favoriser la propagation du virus et embourber les hôpitaux. C'est plus précoce que la moyenne, constate Guy Boivin, microbiologiste au Centre hospitalier universitaire à Laval, à Québec, le Centre hospitalier universitaire Laval à Québec, ce n'est pas le scénario souhaité. Il y a plus de réunions de gens à Noël, plus de risques de transmettre le virus. Quelques 137 cas d'influenza de type A ont été répertoriés dans la semaine du 18 au 24 novembre, montrent les dernières données de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Le temps des fêtes va être assez occupé pour la grippe, dit le docteur Gaston Deserre, médecin épidémiologiste à l'Institut. On va être au début de la période épidémique. Elle va se propager en janvier et février. Quant au vaccin, les autorités s'attendent à ce que son efficacité soit d'environ 50 à 60 %. C'est du moins ce qui a été observé en Australie, où la grippe frappe plus tôt. Maltraitance dans les CHSLD parce qu'il manque d'employés. Un rapport percutant a été déposé hier. Des personnes âgées en CHSLD ont passé 36 heures au lit et d'autres n'ont pas eu droit à leur bain hebdomadaire en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans les établissements de santé. Il s'agit carrément de maltraitance, selon la protectrice du citoyen. C'est de la maltraitance, a lancé Marie Rinfret en conférence de presse hier lors de la présentation de son rapport annuel. Elle y fait état de plusieurs cas de manquement dans des CHSLD, lesquels sont causés, selon elle, par une pénurie de personnel. Marie Rinfret dénonce les hôpitaux qui facturent des chambres individuelles ou doubles à des patients qui les auraient obtenues gratuitement de toute façon. Il y a un traitement qui est un peu anarchique, disparate, inéquitable. On a demandé au ministère de revoir son règlement qui date de 1981, explique-t-elle. Aussi, des dizaines de milliers de prestataires d'aide sociale n'ont pas accès au crédit d'impôt pour solidarité en raison de formalités administratives, à toute fin utile, dénonce Marie Rinfret. Ces personnes qui vivent dans la pauvreté auraient droit à près de 80 $ de plus par mois. Une déclaration d'impôt est toutefois nécessaire pour l'obtenir, déplore la protectrice, qui s'inquiète pour les personnes itinérantes ou souffrant de maladies mentales, par exemple. Elle suggère que ce montant soit directement inclus dans les versements d'aide sociale, comme c'était le cas avant la réforme. Une adolescente de 15 ans est portée disparue dans l'arrondissement d'Aunsic-Cartierville à Montréal. Elsa Gabrielle Lalanne a été vue pour la dernière fois le 23 novembre. Le service de police de la Ville de Montréal a communiqué sa disparition aux médias hier. Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité en raison de ses mauvaises fréquentations, a indiqué le service de police de la Ville de Montréal. La jeune femme a la peau noire et parle français. Elle mesure 5 pieds 3, 160 cm, pèse 185 livres, 85 kg, a les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle a aussi un tatouage de couronne en haut de la poitrine, du côté droit. Un copilote de la compagnie aérienne Japan Airlines a été condamné à 10 mois de prison hier à Londres après avoir été contrôlé avec une alcoolémie plus de 10 fois supérieure au maximum autorisé peu avant le décollage de son avion. Katsutoshi Jitsukawa, 42 ans, avait été arrêté le 28 octobre à l'aéroport londonien d'Heathrow après avoir échoué à un éthylotest effectué 50 minutes avant le décollage de son vol passager reliant la capitale britannique à Tokyo. Leur sécurité a été mise en danger par votre ébriété, a reproché le juge Philip Matthews du tribunal Dilworth, qui a décrit le copilote comme très ivre. Les conséquences potentielles pour ceux qui se trouvaient à bord auraient pu être catastrophiques, a-t-il ajouté.
Calculais mes heures avant de trouver l'aiguille. J'aimais ça la noirceur avant que le soleil brille. J'humais pas les fleurs avant de sentir la bise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brille. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'étais pas un suiveur avant de trouver l'église. J'étais pas mauvais pêcheur avant de toucher la rive. Je sentais pas la peur avant que je chavire. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. Je cherche la lueur, j'ai perdu ma balise. J'ai brisé son cœur, j'ai éteint la lumière vive. Le feu plein d'ardeur qui couvait sous sa chemise. J'avais pas vu son cœur, mais là je vois ma bêtise. De bonheur ont plombé ma valise. J'ai le goût des couleurs, mais je me sens tour de piste. J'irai voir le passeur, il faut que je lui dise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brille. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise.
Tiré de l'album Un abri contre le vent, c'était David de Portelance. J'avais pas vu son cœur.
Alors, allons-y avec une nouvelle canadienne, puisque c'est la portion des nouvelles canadiennes le vendredi que j'ai trouvée dans la presse. Vous avez sans doute entendu parler de cette tragédie au Yukon. Un vent de solidarité pour le père. Des amis du couple se sont relayés au téléphone toute la nuit pour rester en contact avec le père pendant qu'il attendait les secours. L'appel au secours est entré à Whitehorse en fin de journée. Un grizzly venait de tuer la Québécoise Valérie Théoret et sa fillette de 10 mois dans un territoire de trappe isolé du Yukon. Le père survivant de l'attaque ne pourrait être secouru avant le lendemain matin. Mais ses amis n'allaient pas le laisser traverser seul cette nuit aux allures de cauchemar. Dès que la nouvelle du drame s'est répandue dans l'entourage du couple, un grand vent de solidarité s'est mis à souffler sur des centaines de kilomètres à travers les montagnes glacées du Yukon. Des gens se sont organisés pour rester en contact avec le père éploré, Yermoun Ruesold, grâce à son téléphone satellite jusqu'à ce que les secours l'atteignent. Lui vivait les pires moments de sa vie. Eux étaient là pour l'aider à s'accrocher. Il a passé la nuit dans la cabane en attendant qu'on vienne le chercher. À Whitehorse, les gens se relayaient pour lui parler. Ils sont restés toute la nuit. C'était un gros mouvement de solidarité. Quand il est rentré, il y avait une trentaine d'amis qui l'attendaient chez lui, raconte le journaliste Antoine Deshaies, un bon ami de Valérie Théoret. Trappeur professionnel d'origine norvégienne, Yermund Ruesholt s'était installé sur sa concession de piégeage avec sa conjointe de 37 ans et leur fille pour un séjour qui devait durer 3 mois. Ils étaient bien dans leur cabane équipée d'un poêle à bois, près d'Enarson Lake, à mi-chemin entre Whitehorse et la mer de Beaufort. Lundi, en revenant vers la cabane, le trappeur a été attaqué par un grizzly qu'il a réussi à abattre de plusieurs coups de fusil. Puis il a découvert les corps de sa conjointe et de son bébé, la petite Adèle. Une porte-parole d'Environnement Yukon a expliqué hier que la dépouille de l'ours serait examinée pour tenter de comprendre la raison de l'attaque. L'organisme souligne que l'hiver est doux dans la région jusqu'ici, ce qui veut dire qu'il n'est pas étonnant que la bête n'ait pas encore été en train d'hiberner. Les proches de Valérie Théoret refusent de spéculer sur les causes du drame. La famille a demandé à vivre son deuil loin des projecteurs, mais les amis insistent pour dire que la disparue était une habituée des grands espaces du Nord canadien et qu'elle prenait toutes les précautions nécessaires en matière de sécurité. Antoine Deshaies et Valérie Théoret se sont liés d'amitié à l'école secondaire. Ils se sont suivis au cégep et à l'université. Ils ont même travaillé ensemble dans un camp de vacances en Suisse. Il souligne à quel point elle était passionnée de plein air. Son nom de camp, c'était Chic-Choc, comme la chaîne de montagnes gaspésienne. Elle s'est trouvée une job au Yukon et elle devait rester seulement quelques mois, mais elle est tombée en amour avec la place. C'était un retour à la nature. Personne ne déménage au Yukon sans aimer le plein air. Toute la vie est basée sur ça là-bas. Ils habitaient Whitehorse, mais partaient tout le temps en expédition avec leur gang, dit Antoine Deshaies. Avec son conjoint, ils ont fait des expéditions de canot camping en solitaire pour 2 mois dans des régions où il y a des ours. Ils vivaient en communion avec la nature. Elle était toujours extrêmement bien préparée. Ils marchaient en faisant du bruit, mais il y a une limite à ce que tu peux faire, ajoute Antoine Deshaies. Lui-même est allé visiter son ami il y a quelques années et se souvient qu'elle insistait beaucoup sur les consignes de sécurité afin d'éviter les mauvaises surprises avec les animaux. C'était quelqu'un qui connaissait les risques et qui agissait pour les minimiser tout le temps. Pour le commun des mortels, ça peut sembler risqué avec un enfant. Mais pour eux, c'était leur réalité, être dans le bois. Je compare ça à la foudre, être au mauvais moment, au mauvais endroit, alors que beaucoup de gens partent souvent en expédition. Et il ne se passe jamais rien, dit-il. À Whitehorse, où beaucoup de gens connaissaient l'enseignante de français langue seconde, des gens se sont réunis pour célébrer la mémoire de celle que son ami décrit comme une fille vraie, authentique, qui pouvait illuminer une salle avec son sourire et qui n'était tellement pas Facebook, tellement pas axée sur l'image. Quand on se retrouvait, c'est ce qu'on faisait, du chalet, du plein air, des expéditions. C'était sa vie. C'est un peu ça, la bouée à laquelle on s'accroche aujourd'hui. Elle était où elle voulait être, avec qui elle voulait être, dit-il. La veille, elle n'aurait voulu être nulle part ailleurs dans le monde. Et toujours au Yukon, dans l'aurore boréale cette fois, il y a environ 5 semaines, CJUC, la radio communautaire de Whitehorse, a cessé d'émettre ses programmes. Tandis que la traditionnelle vente de vinyle se prépare, Bill Polonsky, coordonnateur bénévole de CJUC, a tenu à rassurer les auditeurs. Non, CJUC n'est pas de l'histoire ancienne. C'est le message de Bill Polunsky, coordonnateur bénévole de la radio communautaire de Whitehorse depuis plus de 14 ans. Début octobre, la station de radio a cessé d'émettre. Sur les ondes du 92,5 FM, aucun programme ne sort désormais des haut-parleurs. C'est un simple problème technique, déclare M. Polunsky. En effet, le système relativement complexe permet à la radio en temps normal de transmettre les programmes sur les ondes. Le signal est envoyé depuis le parc Shipyards vers le toit du Centre des arts du Yukon. Nous avons besoin qu'un technicien monte sur le toit du Centre des arts pour régler le problème, et comme nous n'avons pas de financement pour cela, nous devons attendre les disponibilités de notre technicien bénévole qui est habilité à le faire. Le fait que la radio soit exclusivement basée sur le bénévolat ralentit beaucoup les réparations. Tout va lentement, explique M. Polunsky, notamment la coordination des réparations. Le coordonnateur était en dehors du territoire quand le problème est survenu au début octobre, créant ainsi un premier retard dans la résolution du problème. Une autre personne qui travaille avec nous est en Asie présentement, ajoute le coordonnateur. Cependant, pas d'inquiétude. Tout n'est qu'une question de temps et le signal devrait revenir en ondes d'ici deux semaines, selon lui. La collecte de fonds du 8 décembre prochain et le problème technique ne sont cependant pas connectés. Nous faisons cette vente de vinyle deux fois par année. Et celle de décembre était déjà prévue, explique-t-il. Notre problème technique ne devrait pas coûter très cher. Il s'agit uniquement de mettre le temps nécessaire, mais tout le monde est bénévole. La radio va mettre en vente une cinquantaine de boîtes remplies de vinyle. Les fonds collectés serviront aux dépenses de fonctionnement de la radio, telles que le loyer de la petite maison historique qui héberge la station de radio dans le parc Shipyards, ainsi que l'achat de quelques petits équipements. Une équipe de la Nouvelle-Écosse participera à une activité de recrutement d'immigrants en France et en Belgique au cours des prochaines semaines afin de rencontrer des francophones qui songent à s'installer et à travailler dans la province. Et dans le courrier de la Nouvelle-Écosse du 23 novembre, Lena Matlègue-Diab, ministre de l'Immigration et ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, dirigera la mission qui inclut également des membres du personnel de l'Office de l'Immigration et de l'Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie, un employeur ainsi que des partenaires en développement économique. Destination Canada, une activité de recrutement organisée par l'ambassade du Canada à Paris, cible les francophones bilingues qui aimeraient vivre et travailler au Canada. Les rencontres avec des immigrants potentiels auront eu lieu à Paris du 13 au 15 novembre à Bruxelles, le 17 novembre à Liège et à Namur, Belgique, le 19 novembre et à Lille, France, le 20 novembre. Petit ajout, l'immigration exerce une influence positive à l'échelle de la Nouvelle-Écosse. L'Office de l'immigration a accueilli près de 10 000 nouveaux résidents dans le cadre du programme des candidats de la Nouvelle-Écosse au cours des deux dernières années et poursuit son travail pour combler le manque de main-d'œuvre.